Bienvenue dans les cahiers de la prospective sportive, l'émission qui pense les transformations du sport contemporain. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une double révolution qui secoue nos stades et nos salons. C'est la métamorphose de la manière dont nous regardons le sport et de la manière dont nous le pratiquons. Pour en discuter, nous avons le plaisir de recevoir le professeur Alain, spécialiste de prospective du sport à l'École des hautes études en sciences sociales. Professeur, bonjour.
Bonjour Éléonore. C'est un plaisir d'être ici pour aborder ce que j'appelle la grande bascule numérique du sport. C'est un phénomène qui redessine en profondeur les contours de l'expérience sportive.
Une grande bascule qui s'opère sur deux fronts à la fois. D'un côté, la dislocation du spectacle télévisuel et de l'autre, la dématérialisation de la pratique physique elle-même. Commençons par le premier front, celui du spectateur. Il semble que le temps du grand rendez-vous national devant la télévision soit en train de s'achever.
Absolument. Les chiffres de médiamétrie pour l'année 2025 sont sans appel. Pour la première fois, le temps que nous passons sur Internet dépasse celui devant la télévision classique. Le chiffre le plus parlant, alors que nous consommons plus de 4 heures de vidéos par jour, la part du direct ne cesse de diminuer. Elle est passée à 61%. C'est la fin de ce que Georges Vigarello appellerait le rituel de synchronisation nationale. Ce moment où des millions de corps étaient unis par un même regard. Ce rituel se disloque.
Cette dislocation a des conséquences très concrètes pour le portefeuille du supporter. On pense à la situation du football français avec la multiplication des diffuseurs.
C'est l'exemple parfait. Pour suivre tous les matchs de Ligue 1, il faut jongler entre DAZN, Amazon Prime Video, beIN Sport. C'est une balkanisation des droits. Le spectacle se fragmente et le coût augmente de manière exponentielle. Cela pose une question démocratique fondamentale. Le sport est-il en train de devenir un produit de luxe?
Nous passons d'un spectateur unifié à un consommateur gestionnaire d'abonnement.
Plus que ça, il devient un spectateur augmenté. Sur son second écran, il consulte des statistiques, participe aux réseaux sociaux, parie en direct. Le regard n'est plus contemplatif, mais analytique, participatif, fragmenté. L'expérience s'enrichit individuellement, mais perd cette dimension collective, presque sacrée.
Cette augmentation par la technologie, on la retrouve sur votre deuxième front, la pratique sportive. Vous utilisez l'archétype de Julie, une jeune coureuse.
Oui, Julie incarne cette mutation. Avant de courir, son premier geste est d'activer son écosystème technologique. Montre connectée, smartphone, application. Son corps devient un producteur de données. Chaque battement de cœur, chaque mètre, chaque calorie est capté, analysé, archivé. Le corps devient un texte numérique.
La pratique solitaire n'est donc plus jamais seule.
C'est le paradoxe. Le running semble individuel, mais Julie est en permanence connectée à sa communauté virtuelle. Après sa course, elle reçoit des kudos, ces félicitations numériques, qui activent les mêmes circuits de récompense que l'approbation réelle. On voit émerger une sociabilité sans adresse postale, une communauté dans le cloud.
Vous parlez aussi de gamification de l'effort.
On applique les logiques du jeu vidéo à l'effort physique. L'application de Julie utilise un suffer score, un score de souffrance. La douleur est transformée en chiffres comparables. On collecte des badges, on gravit des classements. Le but n'est plus seulement de courir pour le plaisir, mais de progresser dans un jeu. C'est le Nudge Sport, inspiré des travaux du prix Nobel Richard Thaler.
Les grands gagnants ne sont plus les clubs sportifs ou les fédérations.
Exactement. C'est la désintermédiation. Les plateformes californiennes comme Strava sont devenues les nouveaux temples du sport. Julie n'a pas besoin d'un club. Les plateformes captent la relation, la donnée, et donc la valeur.
Quelles sont les convergences entre ces deux phénomènes?
D'abord, une quantification généralisée. Le spectateur analyse les stats, le coureur analyse sa fréquence cardiaque. Ensuite, une désintermédiation parallèle. Les chaînes TV et les fédérations sont concurrencées par les mêmes acteurs de la Silicon Valley.
Ce qui nous amène aux questions éthiques sur les données personnelles.
Elles sont fondamentales. Le corps du sportif devient un gisement de données précieuses. Qui les possède? Qui les protège? On voit aussi de nouvelles fractures sociales. Une élite suréquipée d'un côté, ceux sans moyens de l'autre. La technologie recrée de la distinction sociale.
Au cœur de tout cela, la tension entre virtualisation et incarnation.
C'est le nœud du problème. Même Julie exprime une lassitude et un besoin d'interaction physique authentique.
Plus la technologie médiatise notre rapport au sport, plus le besoin de sentir la sueur, le contact humain ressurgit.
Vers quoi nous dirigeons-nous ?
Vers l'horizon est déjà là. Intelligence artificielle pour coaching personnalisé, meta-running avec avatar dans des métavers, blockchain pour certifier les performances, le scénario le plus probable est une hybridation croissante du réel et du virtuel.
En un mot, que devons-nous retenir ?
Qu'il s'agit d'une rupture anthropologique, pas d'une simple évolution technique. Le sport est le laboratoire où s'expérimentent les transformations de notre rapport au corps, à la société et à la technologie.
Merci, professeur Alain, pour cet éclairage passionnant. Le sport, miroir de nos métamorphoses. Une question pour conclure. Alors que nos corps deviennent des territoires de données, qui contrôle les règles de ce nouveau jeu ?
Professeur Alain, vous avez évoqué rapidement les innovations futures. Pouvez-vous nous en dire davantage sur ces technologies qui vont transformer encore plus profondément notre rapport au sport ?
Avec plaisir. Nous sommes à l'aube de transformations qui vont bouleverser ce que nous avons connu jusqu'ici. Prenons d'abord l'intelligence artificielle générative. Julie, notre coureuse connectée, évoque régulièrement l'émergence d'une AI ChatGPT Sport ou d'une AI Grok Sport. Ce ne sont pas de simples applications, mais de véritables coachs algorithmiques capables d'analyser l'évolution de ces données physiologiques et biomécaniques pour générer des programmes d'entraînement adaptés en temps réel à ses projets et ambitions personnelles.
Cela ressemble presque à avoir un entraîneur olympique personnel disponible 24 heures sur 24.
C'est exactement cela. Cette personnalisation algorithmique de l'entraînement constitue une véritable révolution dans la préparation sportive, traditionnellement confiée à des coachs humains, dont l'expertise était limitée par leur incapacité à traiter des volumes importants de données. L'IA, elle, peut analyser des millions de points de données, identifier des patterns invisibles à l'œil humain et ajuster constamment les recommandations.
Et que dire des métavers sportifs ? Est-ce vraiment l'avenir du sport ou un simple effet de mode technologique ?
Le concept de meta-running, c'est-à-dire la course d'endurance dans un métavers, suscite effectivement du scepticisme de la part de Julie elle-même. Mais représentons-nous ce que cela signifie : courir via un avatar dans des univers entièrement conçus pour optimiser l'expérience d'endurance, s'affranchissant des contraintes du monde physique tout en conservant la dimension sociale et compétitive de la course. On peut imaginer courir sur Mars, dans des villes futuristes, ou recréer des parcours historiques mythiques.
Mais n'y a-t-il pas un risque de perdre totalement le contact avec la réalité physique, avec la matérialité même du sport ?
C'est une tension fondamentale. Julie elle-même exprime une certaine lassitude face à cette dématérialisation croissante et manifeste un intérêt pour des interactions physiques, en présentiel, avec d'autres coureurs. Cette tension entre virtualisation et besoin de contact humain direct constitue un défi majeur pour l'évolution des pratiques sportives numériques. Le corps réel ne peut pas être totalement dissous dans le numérique. Il y a une résistance ontologique du corps qui demeure.
Parlons maintenant de la blockchain sportive. C'est un sujet qui revient souvent dans vos travaux.
La technologie blockchain, appliquée au domaine sportif, pourrait révolutionner la certification des performances et la création de classements. En proposant des crypto-classements certifiés mais non fédéraux, cette innovation questionne directement le monopole traditionnel des institutions sportives sur la reconnaissance officielle des performances. Elle s'inscrit parfaitement dans la logique d'autonomisation vis-à-vis des structures fédérales qui caractérisent la démarche de Julie.
Vous voulez dire que demain, je pourrais faire certifier ma performance de marathon sans passer par une fédération officielle ?
Exactement. Un système décentralisé, transparent, infalsifiable. Votre montre GPS enregistre votre parcours, vos temps de passage sont horodatés et cryptographiquement certifiés sur une blockchain, et cette performance devient incontestable sans qu'aucune autorité centrale n'ait eu besoin de la valider. C'est un changement de paradigme total dans la gouvernance du sport amateur.
Intéressant. Cela nous amène à cette notion fascinante que vous développez, le tiers-temps sportif et numérique. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ?
Cette structuration de l'expérience sportive en trois phases distinctes révèle une mutation profonde de la nature même de l'activité sportive, désormais indissociable de sa médiatisation sur Internet. La première phase, c'est la préparation, consultation de l'application, planification du parcours, partage de l'intention avec la communauté. La deuxième phase, c'est la réalisation, l'effort physique lui-même, mais constamment médiatisé par les capteurs et le partage en temps réel. La troisième phase, peut-être la plus importante socialement, c'est la diffusion sur le web. Partage des performances, réception des kudos, analyse des données, comparaison avec les autres.
Le sport devient donc autant un acte de communication qu'un acte physique.
C'est une observation très juste. L'horizon technologique qui se dessine n'est exempt de contradictions. L'ensemble de ces innovations techniques s'accompagne d'évolutions dans les usages qui transforment profondément ce qu'est faire du sport au XXIe siècle. La question n'est plus seulement de savoir si on court vite, mais aussi si on le partage bien, si on génère de l'engagement communautaire, si nos données sont intéressantes.
Professeur, toutes ces transformations ont évidemment des implications économiques considérables. Vous parlez dans vos travaux d'une véritable transformation du modèle économique du sport.
Absolument. Le cas de Julie illustre parfaitement la révolution en cours dans l'économie du sport. Le modèle traditionnel, centré sur les clubs et les fédérations comme intermédiaires obligés entre les pratiquants et l'activité sportive, cède progressivement la place à un écosystème dominé par des plateformes technologiques d'intermédiation. Ces protocoles sportifs dématérialisés, souvent issus de la Silicon Valley ou de Chine, deviennent les nouveaux médiateurs de l'expérience sportive, captant une part significative de la valeur générée par la pratique.
Vous voulez dire que l'argent qui allait autrefois aux clubs locaux va maintenant vers les grandes entreprises technologiques ?
C'est une partie importante du phénomène. Cette désintermédiation des institutions sportives traditionnelles s'accompagne paradoxalement d'une démocratisation de l'accès à des outils d'analyse et d'optimisation autrefois réservés aux athlètes d'élite. Le smartphone de Julie, transformé en dispositif d'optimisation ultra sophistiqué, lui offre des fonctionnalités que même les meilleurs athlètes ne pouvaient imaginer il y a quelques années encore. Mais cette démocratisation a un coût, nos données personnelles.
Justement, parlons de ces questions éthiques qui traversent vos recherches. La protection des données personnelles semble être un enjeu majeur.
C'est un enjeu fondamental qui soulève des questions vertigineuses. Le corps du sportif amateur devient, comme je l'ai dit, un véritable gisement de ce que les chercheurs appellent la bio-value, une mine de données personnelles extrêmement précieuse pour les entreprises technologiques. Qui possède ces données ? Qui les protège ? Qui peut les exploiter commercialement ? Nous sommes face à un vide juridique considérable. Julie génère des milliers de données chaque semaine, mais elle n'a qu'une très vague idée de ce qu'il en advient.
Et au-delà de la question des données, vous identifiez aussi de nouvelles formes d'inégalités sociales liées à ces technologies.
Oui, c'est une préoccupation majeure. L'investissement financier nécessaire pour accéder à l'écosystème technologique complet de Julie, vous savez, le smartphone de dernière génération, la montre connectée, les lunettes en réalité augmentée, les abonnements aux services, tout cela représente plusieurs centaines d'euros. Cela crée potentiellement de nouvelles formes d'exclusion sociale dans le domaine sportif. Nous retrouvons ici la logique de distinction sociale analysée par Pierre Bourdieu. La technologie devient un marqueur de classe sociale. Ceux qui ont accès aux outils d'optimisation progressent plus vite, obtiennent de meilleurs résultats, accèdent à de meilleures communautés virtuelles.
C'est un peu le paradoxe de ces technologies. Elles promettent l'égalité, mais produisent de nouvelles inégalités.
C'est exactement cela. Et nous devons également parler de la dépendance technologique. Julie elle-même reconnaît avoir du mal à courir sans sa montre, sans ses applications. C'est ce que j'appelle une forme d'aliénation douce. Les mécanismes de gamification, les kudos, créent des boucles de récompenses dopaminergiques qui peuvent devenir addictives. On ne court plus pour le plaisir intrinsèque de l'effort, mais pour les gratifications numériques, pour maintenir sa série de jours d'entraînement, pour gravir un classement virtuel.
Cela pose aussi des questions sur l'authenticité même de l'expérience sportive, non ?
Absolument. Qu'est-ce qu'une performance authentique à l'ère de l'augmentation technologique ? Où se situe la frontière entre le corps naturel et le corps assisté par la technologie ? Ces questions ne sont pas nouvelles dans le sport de haut niveau, on pense au dopage technologique, mais elles se posent maintenant pour le sport amateur de masse. Quand ma montre me dit exactement à quel rythme courir pour optimiser ma performance, quand mes lunettes augmentées corrigent ma biomécanique en temps réel, est-ce que c'est encore moi qui cours ou est-ce un cyborg humain-machine ?
Ces questions renvoient aussi à des enjeux géopolitiques, il me semble.
Tout à fait. Nous assistons à une forme d'hégémonie américaine et chinoise sur le sport européen. Les plateformes qui médiatisent nos pratiques sportives sont presque toutes étrangères. Strava, Nike Run Club, Peloton, ce sont des entreprises américaines. Les capteurs et les équipements viennent souvent de Chine. Cela pose la question de la souveraineté numérique européenne dans le domaine sportif. Avons-nous encore la capacité de définir les normes, les valeurs, les modalités de nos propres pratiques sportives, ou est-ce que nous sommes devenus de simples consommateurs de produits et services conçus ailleurs ?
Et que dire du rôle des institutions publiques dans ce nouveau paysage ?
C'est une question cruciale. Les fédérations sportives traditionnelles, les clubs, les collectivités locales qui finançaient les infrastructures sportives, tous ces acteurs historiques du sport, se retrouvent marginalisés. Ils n'ont pas su ou pas pu développer leurs propres écosystèmes numériques. Résultat, ils perdent la relation avec les pratiquants, ils perdent la maîtrise de la donnée, ils perdent leur capacité de régulation. Faut-il créer des plateformes publiques de sport connectées? Faut-il réguler plus fortement les plateformes privées? Ce sont des choix politiques qui devront être faits dans les années à venir.
Nous arrivons au terme de ce parcours à travers les métamorphoses du sport contemporain. Professeur Alain, si nous devions synthétiser les grandes lignes de force qui traversent vos travaux du 22 janvier 2026, que retenir?
Éléonore, trois ruptures anthropologiques majeures se dessinent. Premièrement, la fin de la synchronisation collective devant le spectacle sportif, ce rituel qui structurait le temps social depuis les années 1950, s'effrite. Deuxièmement, l'émergence du corps connecté comme producteur autonome de données et de valeurs. Julie, notre archétype de la génération Z, incarne cette mutation. Troisièmement, la désintermédiation généralisée. Les institutions traditionnelles, fédérations, clubs, chaînes hertziennes, perdent leur monopole au profit des plateformes californiennes. Strava, DAZN, Amazon Prime Video deviennent les nouveaux médiateurs universels du sport.
Ces plateformes construisent-elles un modèle plus démocratique ou, au contraire, reproduisent-elles de nouvelles formes d'exclusion?
Question fondamentale. Apparemment, la promesse est démocratique. Accès illimité au contenu, personnalisation extrême, communauté mondiale sans frontières, mais la réalité est plus ambivalente. Premièrement, le coût cumulé des abonnements sportifs en France atteint désormais 40 à 50 euros par mois pour un supporter complet de Ligue 1. C'est considérable pour les classes populaires. Deuxièmement, l'équipement connecté pour le running augmenté coûte entre 500 et 1000 euros. Montre GPS, smartphone récent, abonnement premium Strava. Nous assistons donc à une double fracture. Fracture économique d'accès au contenu et aux technologies, fracture cognitive entre ceux qui maîtrisent les codes de la gamification, les dashboards, les métriques physiologiques et ceux qui en sont exclus. L'élite connectée, ultra équipée, hyper quantifiée, se sépare de la masse des pratiquants traditionnels. C'est une reproduction numérique de la distinction bourdieusienne.
Vous évoquez souvent dans vos écrits la tension entre virtualisation et incarnation. Cette dialectique vous semble-t-elle tenable sur le long terme?
C'est la grande question anthropologique des décennies à venir. Mes recherches montrent que même les pratiquants les plus connectés expriment un besoin irréductible d'incarnation physique. Julie utilise son beacon pour partager sa position GPS et retrouver des coureurs réels dans le parc de Vincennes. Les joueurs de Zwift organisent des rencontres IRL, in real life, après des mois de compétition virtuelle. Le métavers sportif que nous voyons émerger avec le meta-running ne peut fonctionner que comme supplément, comme augmentation du réel, jamais comme substitution totale. Le corps biologique, avec sa fatigue, sa douleur, sa jouissance physique, reste le substrat irremplaçable de l'expérience sportive. Même le suffer score de Strava, cette quantification algorithmique de la souffrance, ne fait que traduire numériquement une sensation corporelle intense et irréductible. La chair résiste à la dématérialisation complète.
Parlons des données personnelles. Vous utilisez le terme de « bio-value », valeur biologique. Pouvez-vous expliciter ?
Le bio-value, concept développé par les chercheurs en surveillance studies, désigne la valeur économique extraite des données biologiques et physiologiques des individus. Chaque fois que Julie court avec sa montre connectée, elle produit des dizaines de métriques. Fréquence cardiaque, VO2 max, cadence, zone d'effort, qualité du sommeil, stress physiologique. Ces données sont captées, agrégées, analysées par les plateformes. Elles alimentent des algorithmes d'entraînement, des modèles prédictifs de performance, des recommandations commerciales ciblées. Strava revend ces données anonymisées à des urbanistes pour optimiser les infrastructures cyclables, à des équipementiers pour concevoir des produits adaptés, à des assureurs pour évaluer les profils de risque. Le corps devient gisement de données, mine exploitable. Or, les utilisateurs n'ont généralement aucun contrôle sur cette exploitation, aucune rémunération, aucun droit de regard. Nous sommes dans une économie extractiviste des données corporelles, comparable à l'extraction minière du 19e siècle. C'est un enjeu de souveraineté individuelle et collective majeur.
Les institutions publiques, les États, ont-ils un rôle à jouer face à cette privatisation généralisée?
Absolument. Nous ne pouvons pas abandonner le sport, bien commun culturel et sanitaire, aux seules logiques marchandes des GAFAM et des plateformes. Trois chantiers de régulation publique me semblent urgents. Premièrement, garantir un accès gratuit ou à prix régulé aux événements sportifs majeurs d'intérêt national. La directive européenne SMA, Service de médias audiovisuels, impose déjà cette obligation pour certaines compétitions, mais elle doit être étendue et renforcée face à la fragmentation des droits. Deuxièmement, instaurer un cadre strict de protection des données personnelles sportives, avec transparence sur les usages, consentement éclairé et portabilité des données. Le RGPD européen est un premier pas, mais insuffisant face aux innovations technologiques. Troisièmement, soutenir des alternatives publiques ou associatives aux plateformes privées. Imaginez une plateforme sportive européenne, open source, respectueuse des données, fédérant les clubs, les fédérations, les collectivités locales. Un Netflix public du sport, un Strava coopératif, c'est techniquement possible, c'est politiquement nécessaire pour préserver une souveraineté numérique européenne dans le domaine sportif.
Vous terminez votre synthèse de 30 pages par une question vertigeuse. Qui contrôle les règles du jeu ? Pouvez-vous développer ?
C'est la question philosophique ultime. Historiquement, les règles du sport étaient édictées par des institutions humaines reconnues : fédérations internationales, comités olympiques, ligues professionnelles. Elles étaient le produit de négociations collectives, de compromis entre acteurs identifiés. Aujourd'hui, les règles du sport numérique sont de plus en plus inscrites dans des algorithmes opaques, propriétaires, non négociables. Les critères de classement Strava, les mécaniques de gamification de Zwift, les systèmes de notation de performance, les recommandations personnalisées de contenu sportif sur Prime Video ou Netflix, tout cela relève de boîtes noires algorithmiques contrôlées par des entreprises privées californiennes ou chinoises. Ces algorithmes façonnent nos pratiques, orientent nos efforts, déterminent notre visibilité sociale, notre reconnaissance communautaire. Ils deviennent prescripteurs normatifs sans légitimité démocratique. Alors, qui décide des règles ? Les ingénieurs de Mountain View, les actionnaires de ByteDance, les États régulateurs, les utilisateurs eux-mêmes via des gouvernances participatives, c'est un combat politique majeur pour les démocraties du XXIe siècle. Le sport n'est qu'un laboratoire de cette question beaucoup plus vaste du gouvernement algorithmique de nos vies.
Une note d'espoir pour conclure, professeur Alain.
Oui, Éléonore. Malgré tous ces enjeux critiques, je reste fondamentalement optimiste. Pourquoi ? Parce que le sport, dans sa dimension anthropologique profonde, est une pratique de résistance corporelle. Courir, nager, pédaler, sauter, lutter, c'est réaffirmer la primauté du corps vivant contre toutes les formes de désincarnation. Les technologies numériques peuvent augmenter, médiatiser, quantifier l'expérience sportive, elles ne peuvent la remplacer. Julie court dans le parc de Vincennes, pas seulement dans Zwift. Les millions de spectateurs qui ont regardé France-Écosse au tournoi des 6 nations 2025 à la télévision ont vécu une émotion collective réelle, même fragmentée par les écrans. Le sport reste un espace de production de présence, de communion charnelle, de partage affectif irréductible. C'est notre humanité incarnée qui résiste et persistera. Les outils changent, l'essence demeure. Voilà pourquoi je continue de croire au sport comme école d'humanité pour le XXIe siècle.
Merci infiniment, professeur Alain, pour cette conversation aussi dense que passionnante. Chers auditeurs et auditrices, vous venez d'écouter un épisode des Cahiers de la prospective sportive, fruit des recherches menées le 22 janvier 2026. Tous les documents académiques évoqués aujourd'hui, la synthèse de 30 pages, les monographies sur les télévisions sportives et le corps connecté, sont accessibles dans les ressources pédagogiques de notre émission. Le mois prochain, nous explorerons les mutations du basketball européen face à l'arrivée annoncée de la NBA Europe en 2027. Une autre révolution se prépare. Restez connectés. D'ici là, continuez de courir, de jouer, de transpirer, de vivre pleinement vos corps en mouvement, qu'ils soient augmentés ou non par la technologie. À très bientôt.